Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes bientôt arrivés à la fin du livre. Il y a encore deux lectures à faire et nous allons savoir comment se résout le problème de Benjamin. Il est temps de faire d'abord un résumé rapide de ce qui s'est passé. Benjamin Bucquois, l'abbé de la paroisse de Sainte-Marie-aux-Fleurs, n'arrive plus à pacifier la paroisse dans laquelle se trouve son église, entre le prêtre et les femmes qui s'occupent des fleurs, qui s'occupent de ceci ou de cela, il y a un gros problème. Et puis, il y a Monseigneur Vignon aussi. Il semble s'éloigner alors qu'ils étaient bien amis. L'abbé décide de disparaître pour un temps. Et pour cela, il s'est emmuré, tout simplement, pas très loin du village d'ailleurs. Lorsque monsieur l'abbé est enfin repéré et que la foule se presse pour venir l'entendre et partager avec lui, ça n'arrange rien. Et nous avons vu dans la dernière émission une phrase que se rappelle Benjamin. Il est dit « On ne sait pas vraiment ce que c'est que d'aimer, tant qu'on n'a pas aimé des personnes difficiles et même très difficiles, souvent qui ne sont pas aimables du tout. En fait, c'est surtout une fuite devant le commandement de l'amour que Benjamin a réussi. Et sa morale en a pris un coup quand il a appris que le père Maurice, son confesseur, avait fait une crise cardiaque en apprenant sa disparition. De plus, l'attitude de Benjamin a fait tache d'huile et d'autres prêtres ont suivi. Alors, reprenons notre lecture pour en savoir plus. C'est le chapitre 18. Un huis clos de crise. Jean-Philippe, il faut faire quelque chose, ça ne peut plus durer. La phrase claque comme un éclair au milieu d'un orage. Au 33e jour de la réclusion de Benjamin, dans la chaleur infernale du mois de juillet, Monseigneur Vignon est assis dans un bureau de la conférence des évêques, en présence des membres du conseil permanent de l'épiscopat. C'est une réunion de crise. En effet, le geste de l'abbé Bucquois a fait tache d'huile. Sept autres prêtres se sont emmurés, le premier dans le clocher de son église, le second dans une baraque de chantier abandonnée, le troisième dans un conteneur sur le port du Havre, le quatrième dans une cabane construite dans un arbre, le cinquième en haut d'une grue de chantier, le sixième sur un bateau au large de Saint-Jean-de-Luz, le septième a carrément investi un phare désaffecté sur un banc de roche breton. Comme Benjamin, il prétend revenir aux fondamentaux du sacerdoce, c'est-à-dire en finir avec les milliers de kilomètres, les réunions inutiles, les plans diocésains. Une sorte de bronca générale du clergé en somme. Et toute la presse en fait des gorges chaudes. À bout de nerfs, les évêques ont donc décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Mais après 3 heures de discussion, aucune solution ne se dessine. On tourne en rond lamentablement. Et puis l'atmosphère ambiante renvoie davantage aux aisselles de Saint-Joseph à la fin d'une journée d'atelier qu'aux roses promises par Sainte Thérèse depuis le ciel. Jean-Philippe Vignon décide de dire à ses confrères ce qu'il a sur le cœur. Son cœur a été bien retourné ces derniers temps et certains vont être surpris. Personnellement, j'ai beaucoup réfléchi depuis un mois. D'une manière générale, nos prêtres sont surmenés et manquent de reconnaissance. Nous ne les accompagnons pas assez. Le problème est notre défaut de leadership. Nous ne leur disons pas assez quelles sont les priorités. Et ils souffrent de la culpabilité de ne pouvoir faire tout ce qu'ils doivent faire. D'autant plus qu'ils sont confrontés à un idéal très haut, puisqu'il s'agit pour eux de représenter le Christ auprès des hommes. À vue humaine, ils sont donc condamnés à être toujours déçus par eux-mêmes. De plus, nous leur demandons de plus en plus de couvrir des territoires titanesques pour nous rassurer sur notre capacité à tenir le terrain. Mais la réalité est que c'est impossible. Il serait temps d'avoir le courage de le reconnaître au lieu de poser des rustines. Cessons de croire que nous pouvons tout faire. Il faut tout repenser en fonction des talents et des charismes de nos prêtres, sous peine de tous les voir craquer. Monseigneur Vignon s'interrompt un instant, la gorge serrée. En toute discrétion, je vous avoue que Benjamin s'est enfermé aussi parce que je n'ai pas su le rejoindre dans son besoin narcissique, qui est un besoin légitime. Il espérait secrètement avoir un poste que j'ai donné à un autre. Ce genre de déception est fréquent, mais nous ne savons pas l'accompagner. Or, les prêtres sont aussi des hommes, comme nous d'ailleurs. Nous avons tous besoin de reconnaissance. À ces paroles, les évêques se regardent sans mot dire, dans un silence à peine troublé par le ronron des infatigables ventilateurs. Chapitre 19. Une éminente sociologue. Aujourd'hui, Evelyne Bossard-Dupin a pris un jour de RTT, histoire de souffler un peu. Ses quatre en main, elle s'emploie à tailler les haies de son jardin. La chef de la pastorale diocésaine est déprimée. L'application de son plan triennal d'investissement pastoral a pris du retard en raison de la mobilisation exceptionnelle de Monseigneur Vignon autour du cas Bucquoy. Ce goujat n'a même pas été capable de lui présenter ses excuses après l'avoir insulté. Soudain, son téléphone portable sonne. Sur l'écran apparaît le prénom Marivonne. Marivonne Pastoubert. Son maître absolu, sa quasi-divinité. Pour elle, elle se ferait découper en rondelles par les barbaresques. Elle lâche le sécateur dans les rosiers. Au bout du fil, l'impérieuse Marivonne débite à toute vitesse d'une voix exaltée. Evelyne, je suis chez toi. Et, en discussion ce matin avec mon ami Donald Wright de l'Université de Chicago, j'ai décidé d'aller voir le curé emmuré dans ta région, car Donald m'a demandé de faire une intervention sur ce phénomène lors du prochain congrès qu'il organise à San Francisco. C'est extraordinaire comme sujet d'enquête. J'ai immédiatement pris la voiture et au dernier moment, je me suis dit qu'il fallait absolument que je passe te prendre. Cela va te passionner. Allez, vite, dépêche-toi, je suis horriblement mal garée. Dans son enthousiasme coutumier, Marivonne a raccroché d'un coup. Aucune objection n'est possible. De toute façon, pour Evelyne, il n'est pas question de faillir à son mentor, qui lui tient à la fois lieu de père, de mère et de meilleur ami. Séance tenante, elle saisit son sac à main et s'engouffre dans sa voiture. Marivonne démarre en trombe et, ne lui laissant pas le temps d'ouvrir la bouche, commence une véritable conférence. Evelyne, nous avons fait fausse route en négligeant la résurgence de la confession. C'est très important, c'est thérapeutique. Les gens ont besoin de cela pour travailler sur leur existence, leurs blessures narcissiques et tout le tintouin. Il faut absolument qu'on regarde ça de très près. Ce Bucquoy est vraiment futé comme un renard. Il a fait sauter le système en s'enfermant. Oui, en s'enfermant tout simplement. Là où les autres font des manifs ou des grèves qui ne servent à rien. Mais c'est génial! En réalité, Marivonne s'était découvert une passion un peu tardive pour l'affaire Bucquoy. Jusqu'en présent, elle avait lu avec une pointe de mépris tous les articles sur le sujet. C'est le coup de fil de Donald qui l'a aiguillonné, ou plutôt son invitation à la conférence outre-Atlantique. Marivonne ne saurait refuser une occasion de pontifier devant 300 de ses pairs, qui plus est aux États-Unis, où elle rêve d'être recrutée comme guest professeur dans une université. Ce serait le couronnement de sa carrière. Arrivée au chemin des oubliés, elle pousse Evelyne devant elle. La messe vient de commencer. À sa grande surprise, Evelyne se laisse gagner par l'intensité du recueillement des personnes tassées dans la ruelle dans la fraîcheur ombragée des arbres. Elle entend la première lecture, celle où le prophète Élie rencontre Dieu dans un murmure de silence. Ce texte est son passage biblique préféré. Drôle de signe tout de même. Elle repense à sa haine pour Benjamin. Absorbée par tout cela, elle ne se rend pas compte que Marie-Yvonne s'est éclipsée en douce. Dans la foule, la star de la sociologie religieuse a en effet repéré un chroniqueur de la grande presse qui a récemment encensé son dernier livre. Elle préfère aller lui faire la cour plutôt que de suivre la messe. Et pour tout dire, elle n'a pas envie d'amener Evelyne avec elle, car elle serait obligée de la présenter aux journalistes comme son amie et ne pourrait plus lui cacher qu'elle travaille pour l'Église. Face à cet intellectuel qui fait profession publique d'athéisme, une telle proximité avec l'institution catholique ferait très mauvais effet. Il ne reparlerait sûrement plus jamais de ses bouquins. De toute manière, être vue à la messe serait très mauvais pour la carrière de Marie-Yvonne. Elle a certes été pratiquante, jadis, mais aujourd'hui, elle préfère être classée dans le camp des agnostiques. C'est meilleur pour le teint. Evelyne est saisie par l'intensité de la prière. Dans le silence derrière le mur, la voix masculine articule distinctement ces mots. « Ceci est mon corps, livré pour vous. »
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Chapitre 20. Un fameux coup de pompe. 40 jours. Ce matin, Benjamin compte et recompte les bâtons inscrits à la main sur le mur du cabanon. Le voilà rendu à son 40e jour de réclusion. Il a mal dormi. La veille, son ébullition intérieure a été aggravée par deux nouvelles accablantes. Primo, le père Maurice va très mal. Après plus d'un mois à l'hôpital, son état est devenu désespéré. Le vieux prêtre a fait savoir qu'il voulait lui dire au revoir. Mais comment est-ce possible? Secondo, Mado est soudainement passé de vie à trépas. Une semaine plus tôt, la vieille Marguerite était venue le voir de sa part pour le prévenir que sa convertie venait d'être victime d'une embolie pulmonaire et qu'elle voulait lui parler une dernière fois avant de partir. Benjamin s'était mordu les lèvres en réalisant qu'il lui était impossible de répondre à cet ultime souhait. Marguerite avait ajouté, dans un reproche, « C'était bien la peine de vous enfermer comme ça !» Mado avait rendu son dernier souffle en répétant le nom de Benjamin. Elle avait attendu, espéré jusqu'au bout, en vain. Ce 40e matin, pourtant, les visiteurs ne tarissent pas. À peine Benjamin a-t-il renvoyé un pénitent qu'un autre prend sa place. Et c'est un visiteur inattendu qui décline son identité vers 10 heures. Il défonce la porte. « Mon père, je viens vous exprimer mon regret pour ce que je vous ai dit l'autre jour au téléphone. Je n'aurais pas dû vous reprocher d'avoir été timoré face à notre militance contre le gender. Je n'ai pas assez mesuré vos contraintes pastorales. Récemment, un événement dans notre vie familiale m'a révélé que, si l'on est dans les clous par rapport aux règles de l'Église, on peut se voiler la face. Ma propre filleule m'a révélé qu'elle est lesbienne. Je suis bouleversée. » Un peu plus tard, un pénitent d'importance se présente. « Benjamin, c'est Julien. Je voulais absolument passer te voir. Je n'ai pas eu le courage avant. » Il se tait, puis reprend dans un souffle. « En fait, je ne suis pas venu pour causer, mais pour te demander le sacrement de réconciliation. Bénis-moi, s'il te plaît !» Benjamin en a le souffle coupé. Il murmure alors, tout en marquant Julien du signe de la croix à travers le mur, la formule rituelle. « Le Seigneur Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Aie confiance en lui !» Après un silence, Julien se confesse rapidement, comme un homme. La plupart des hommes déballent leurs péchés d'un bloc, comme un débardeur balance sa lourde charge sur le quai après une pénible remontée des soutes du navire. Tout le contraire des femmes qui, comme des randonneuses, mettent du temps à en venir au but, cheminant par monts et par veaux. Lorsqu'elles se confessent, les choses viennent lentement, morceau par morceau. En souriant, le père Maurice dit que les femmes sont atteintes du syndrome du sac de farine. Quand elles semblent avoir vidé leur sac, il en reste encore sur les parois. En fait de bloc, celui de Julien est lourd. Benjamin n'en revient pas. Malgré leur proximité amicale, c'est la première fois qu'il confesse son confrère. L'image idéale qu'il s'est faite de Julien lui apparaît soudain dans toute sa folie. Il a tout bonnement projeté son propre rêve de sainteté sur ce jeune collègue. En même temps, il est saisi par une intense compassion. Julien souffre d'une blessure irrémédiable. Il l'a dit en quelques mots d'une pudeur extrême. Il lutte, et souvent il tient bon, il lutte, mais parfois il chute. Et il se relève, et cela sans cesse depuis des années. Une danse terrible entre le péché et la grâce, entre l'humiliation et la douceur de la miséricorde. Benjamin est tellement impressionné par l'humilité de Julien qu'il en tombe à genoux dans son cachot, comme une branche qui tombe à terre sous l'effet d'un coup de vent. C'est dans cet état qu'il lui donne l'absolution. Julien fait à nouveau silence et lance d'une voix très ferme. « Je voulais juste te dire aussi que Jean-Philippe m'a avoué qu'il t'avait parlé du poste il y a quelques années. Je ne savais pas, je te le promets. Quoi qu'il en soit, j'ai décliné son offre. Je vais partir comme missionnaire à Madagascar pendant quelques années. J'ai besoin de prendre du champ, de m'enraciner autrement dans le ministère. Au revoir, Benjamin. » Julien disparaît. Une femme lui succède quelques minutes plus tard. C'est Brigitte. Sa voix est légère, tellement différente de celle avec laquelle elle venait jadis geindre dans son giron. Il est vrai que sa vie a changé du tout au tout. Face à la stupéfiante affluence dans la paroisse, Guillemette et Brigitte ont dû mettre les bouchées doubles pour organiser l'accueil, tels des médecins urgentistes improvisant un hôpital de campagne. L'église de Saint-Germain-la-Villeneuve est en effet devenue une sorte de sanctuaire de pèlerinage, attirant le tout venant et souvent des gens à problème. Malades en quête d'une guérison, jeunes déboussolés, personnalités borderline, ayant fréquenté tout ce que la planète compte de voyants ou de charlatans. Tous défilent chez Benjamin, qui leur prescrit systématiquement d'aller prier à l'église. Tout naturellement, Brigitte et Guillemette se sont retrouvées à assurer le service après-vente du curé reclus, ce qui inclut pas mal d'urgences matérielles et sociales. Les pots de fleurs sont vite devenus des préoccupations secondaires. Au fond, l'une et l'autre ont toujours été secrètement et tout à fait platoniquement amoureuses de Benjamin, et c'est là aussi le motif caché de leur conflit. Brigitte aime l'écoute empathique du curé, sa sensibilité vive et sa culture raffinée, qui la console du côté rusto et taiseux de Gérard, son mari, grand amateur de belote et de foot. Guillemette, elle, aime en Benjamin le bibliste capable de voir les intuitions théologiques qu'elle a mises dans ses compositions florales. Mais la disparition de Benjamin a créé un vide providentiel. Délivrés du regard de monsieur le curé sur leurs productions artistiques respectives, les deux femmes ont pu se voir différemment l'une l'autre. Un après-midi, alors que Brigitte et Guillemette étaient occupées à faire un grand ménage, des chapelles latérales de l'église, balais et chiffons en main, Brigitte a lancé à Guillemette « Toi qui es si parfaite, pourra-t-on te prendre en défaut, ne serait-ce qu'une seule fois ?» De façon tout à fait inattendue, Guillemette a explosé. « Mais je n'en peux plus !» qu'on me trouve parfaite. J'étouffe dans ce personnage. Ce n'est pas moi. » Puis elle s'est détournée vigoureusement. Brigitte s'est rapprochée d'elle par derrière et lui a dit très doucement « Je te demande pardon. Je ne voulais pas te blesser. » Guillemette s'est alors tournée vers elle avec un visage que Brigitte ne lui avait jamais encore vu. Elle s'est jetée dans ses bras et a éclaté en sanglots comme un Karcher en surpression. Depuis que Guillemette a fendu l'armure, les anciennes rivales trouvent chacune un certain plaisir à la présence de l'autre. Il a fallu aussi un désamorçage de la jalousie de Brigitte, qui s'est opérée grâce au plus improbable des médiateurs. Le mari bat de plafond, mais fin psychologue. Un soir, à l'heure de la tisane, ce dernier a cassé le morceau à sa femme. « Mais enfin, ma poulette, au lieu de te lamenter sur ce que tu as en moins par rapport à Guillemette, c'est-à-dire de te regarder le nombril, pourquoi ne comprends-tu pas que son talent pour les fleurs que tu n'as pas est aussi là pour toi ? Pour tout le monde, évidemment, mais d'abord pour toi, pour que tu en profites. Son don que tu regrettes de ne pas avoir, tu devrais plutôt t'en réjouir. Arrête de te faire du mal avec ta jalousie. » Cette sagesse théologico-spirituelle, chez un être habituellement disert dans les seuls domaines du ballon rond et des promotions du centre commercial, a mis Brigitte dans un état second. Elle a compris que son bourrin de mari avait reçu une inspiration divine. Et le cercle magnétique de l'envie, jusqu'ici savamment entretenu par le prince des ténèbres, s'est brisé instantanément. Brigitte s'est soudain retrouvée à remercier Dieu pour les dons qu'il avait déposés en Guillemette, et pas en elle. Une révolution plus que copernicienne. Brigitte termine son récit par la phrase la plus surréaliste que Benjamin ait jamais entendue depuis des mois. « Maintenant, on est amis toutes les deux. On s'est demandé pardon mutuellement. »
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Chapitre 21. Un colossal dessillement. La nuit vient de tomber ce même jour, le 40e de la réclusion de l'abbé Bucquoy, lorsqu'un homme à la silhouette élancée se glisse dans la ruelle des Oubliés. Par miracle, il n'y a plus personne devant le petit trou du mur. Ses genoux tombent à terre en se cognant sur le sol. Il crie presque « Mon père, bénissez-moi, parce que j'ai péché !» De l'autre côté de la paroi, Benjamin sursaute. L'homme se met à débiter une liste un peu mécanique de fautes. À la fin, il s'arrête net, comme si le tuyau d'arrivée d'eau était coupé d'un coup. « Pardon. J'ai oublié de me présenter. Je suis Enguerranguer. Oui, oui, c'est bien moi. Je suis venu vous demander pardon pour le harcèlement et pour cette pétition qui était truffée de mensonges et qui était assez raciste en plus. » Benjamin sourit. Il attendait ce lascar-là. Après quelques secondes qui s'étirent comme la gelée de groseille à travers les trous de la tartine, Benjamin rend son verdict. « Je vous pardonne, n'en parlons plus !» Ce pardon est plus facile à émettre qu'il ne le pensait. Je n'ai pas fini. Disons que, c'est-à-dire que reprend l'homme. Depuis son réduit, Benjamin imagine que son pénitent se mâchouille la lèvre inférieure. Va-t-il lui annoncer qu'il a trompé sa femme avec sa secrétaire ? Qu'il a étouffé avec un oreiller sa grand-mère qui végétait un peu trop longtemps ? Qu'il pilote un réseau de blanchiment d'argent ? C'est moi qui ai répandu la couche sale de mon petit dernier dans votre confessionnal. Non ? Mais c'était vous ? Oui, pas joli joli, je reconnais. J'en ai plus que honte, vu qu'en plus, c'est ça qui vous a fait craquer et vous retrouver ici. Tout ça pour Sainte Gudule. Je ne suis pas fière de moi et je vous demande pardon du fond du fond. Parfois, on perd la tête, on fait des trucs baroques. Ce n'est pas si grave. Votre geste m'a traumatisée sur le moment. Mais ce n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai craqué pour tout un tas d'autres raisons, dont certaines sont très profondes et n'ont rien à voir avec votre geste. Soyez tranquille en ce qui me concerne. Allez en paix, monsieur Guerre. Tard dans la nuit, quelqu'un vient glisser une enveloppe dans la fente du mur. Benjamin hésite avant de l'ouvrir. Voilà ce qui est écrit. « Cher Benjamin, je suis venu assister à la messe hier, emmené par une amie. Je vous ai toujours considéré comme mon pire ennemi. Hier, j'ai compris que vous étiez vraiment, qui vous étiez vraiment. Un prêtre, c'est tout. Comme d'autres sont clowns, violonistes, peintres ou alpinistes. Une vocation qui les dépasse. Je voulais faire avancer le diocèse à la force du poignet, mais j'ai compris qu'il fallait que nous nous centrions à nouveau sur la simplicité et la force de l'Eucharistie. C'est vous qui m'avez enseigné ça, hier. Je vous demande pardon pour tout. J'espère que vous allez bientôt sortir de là. Je vous embrasse. » Signé Evelyne. Benjamin porte le petit billet contre sa poitrine. Quelle humilité chez cette femme qu'il a si longtemps considérée comme orgueilleuse! Lui-même n'a jamais eu le cran de lui demander pardon, de l'avoir lâchement insultée au téléphone. Elle a fait le premier pas. Benjamin repense à la grandeur de Julien, d'Evelyne, d'Ildefonse et d'Enguerrand. Il revoit tout le chemin qu'a fait Brigitte avec Guillemette, grâce à son mari, soi-disant pas bien finaud. Il se rappelle aussi Monique, retournée par Mado. Au fond, ils se sont tous convertis. Mais lui résiste encore à l'action de la grâce. Les événements de la journée ont ouvert en lui une brèche par laquelle les larmes s'engouffrent, comme un barrage qui cède. Sa faute lui apparaît avec une clarté effrayante. C'est son orgueil qui l'a si souvent poussé à se croire génial, ou au contraire totalement nul, et qui l'a si souvent fait tomber dans ce péché subtil de la comparaison. Un péché que son désir de perfection a tellement encouragé. Le lendemain matin, Benjamin fait parvenir au maire et à Monseigneur Vignon le message suivant. « Il faut absolument que je sorte d'ici. Faites tout votre possible. Je ne pourrai pas rester une journée de plus. » Il ajoute à l'intention de Monseigneur Vignon « Qu'un prêtre vienne me voir. Je veux recevoir le pardon de Dieu, c'est urgent. » Pendant tout l'enfermement de Benjamin, nous avons suivi un grand nombre de personnes plus ou moins proches de la vie de cette paroisse, plus ou moins proches des autorités religieuses de plusieurs personnes. Cet enfermement a manifestement été un déclencheur pour des vies nouvelles, pour des nouveaux dans la vie de personnes très différentes. Mais le dernier épisode de notre lecture nous réserve encore beaucoup de surprises, ne serait-ce que la destruction du cachot dans lequel l'abbé Benjamin est cloîtré. Il sera dit ceci. Le maire de la commune a multiplié les études techniques pour mener à bien la délivrance de l'emmuré. Le problème est complexe. Les experts déclarent que, quel que soit l'endroit par lequel on l'entamera, le cabanon menace de s'effondrer comme un fétu de paille sur la tête de Benjamin. Les gens de la mairie, experts dans plusieurs spécialités, des spécialistes de toutes sortes, des techniciens, tous sont venus pour voir ce travail. N'oubliez pas, si vous voulez savoir la suite, il est important d'écouter notre prochaine lecture. Je lis pour vous. Radio Alliance Plus, 103.2 FM et DAB+, mardi et mercredi en direct 21h, rediffusion lundi et mardi à 6h. À très bientôt pour cette suite.